Je ne rêve plus.
Vous écoutez Radio Campus, il est 18h.
Hey, salut, il est 18h, bienvenue sur le 92.2, bienvenue sur Radio Dijon Campus. La journée finit ses cabrioles et nous allons pouvoir palabrer doucement entre feignants responsables et parler de théâtre, de clownerie et de plaisir. Vous avez la voix de Bad Neighbor au tympan, elle est façonnée par les doigts de maître d'Andrea une fois de plus. Nous sommes donc bien jeudi, nous sommes le 28e jour du mois de septembre, bienvenue dans les tuyaux de l'oreille au poste. Il est quelle heure? Il est 18h. Et l'oreille au poste affiche joyeusement la couleur. Ce soir, c'est 45 minutes de culture et de plaisir turbulent, atomique, voire carrément pré-post-apocalyptique. Ce soir, je reçois pour votre oreille un revenant au blaze en forme d'onomatopée à surprise, d'interjection à circonspection immédiate ou encore de doux murmures à plaisir. Alors, t'es comme certains, tu l'aimes chaud ton automne, reste avec nous car ce soir, on se baigne dans les bruits du monde. Ce soir, c'est 45 minutes avec le théâtre. Théâtre piloté par Émilie Faucheux, accompagnée par une des dernières recrues de la compagnie, Naïna Daboville avec nous. La troupe est en répétition chez les voisins du théâtre Mansart. Il y en a deux chez nous ce soir dans les studios de campus. Et tout ça réuni pour une création à venir les 4 et 5 octobre prochains, avant de partir au théâtre Gaston Bernard de Châtillon-sur-Seine le 12 octobre et puis à la capitale de France. De quoi s'agit-il? Il s'agit de MAD, de MAD, on verra comment on prononce dans cette émission, ou plus particulièrement comment mettre la folie du monde sur quelques planches de théâtre et dans une émission de radio ce soir en 45 minutes. Le pari est joli, il commence maintenant. Mesdemoiselles, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Tout va bien pour vous?
Ça va, elle est super ton intro.
Ouais, généralement ça détend les gens.
On va t'embaucher là.
Bien. En attendant, finissons cette émission avant de signer les contrats. Émilie, comment se porte le théâtre de enfin plutôt le Théâtre refondé, enfin
revisité. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'est pas refondé, je suis toute seule.
J'ai pas dit refondu.
il a fondu en tout cas, ouais. Chloé est partie faire des plantes médicinales dans le Morvan, du coup me voilà. Ça va. On revient d'Avignon avec le monologue que je tourne en ce moment.
Médécali.
Ouais. Et ça s'est bien passé. On a une belle revue de presse.
Grosse secousse à Avignon, j'ai l'impression. Ça a bien marché. Ça parle pas mal en région aussi.
Ouais. Voilà. On invite tous les programmateurs à nous contacter. Mais on a une belle revue de presse. On fait la couverture du magazine Théâtre. Donc là, ça va bien. Ouais, on est content.
Ouais, ça, c'est un peu le pendant de la com, mais la réussite, c'est aussi dans la qualité du spectacle. Ça n'a pas uniquement marché en termes d'image,
non,
en termes de retour spectateur.
Après,
j'imagine
quand
que ça a pris aussi.
En retour spectateur, c'est un spectacle de toute façon qui a marché là-dessus. C'est parce que les spectateurs m'ont encouragé à. J'ai enlevé mes lunettes de blonde là, parce qu'on est arrivé équipé en. En MAD, et tout d'un coup, je parle de Médécali, mais oui, c'est eux qui m'ont encouragé à aller plus loin, parce qu'il y a vraiment un enthousiasme sur le spectacle, sur des propositions qui étaient pourtant très performatives, en improvisation, avec des musiciens très différents. Et on a vu... Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'à Avignon, c'est l'occasion de jouer... Là, c'était 22 fois. Et c'est en fait une opportunité que tu n'as presque jamais ailleurs que dans un festival où tu payes pour jouer finalement. L'accueil a été super, ouais, l'accueil
donc,
est chouette.
Longue traversée en solitaire, mais des qualifs, en faux solitaire, puisqu'il y avait toujours un binôme musical avec toi, guitare, contrebasse, ça tournait toujours autour de ces cordes-là. Et après cette longue traversée, donc retour du collectif.
Oui, bah, c'est un petit peu, tu vois, j'étais toute seule, j'ai eu envie d'appeler des copains pour être un peu accompagnée. Et puis après un texte très... très sérieux, qui traverse la mythologie, très littéraire. J'avais envie aussi de parler du monde d'aujourd'hui avec le rire. Surtout de rire, en fait. Autant la tragédie peut nous réunir, autant l'humour réunit encore plus. Et je me suis dit, ça serait bien d'essayer, voir, de se frotter à cet exercice-là.
Alors, avant de voir comment l'humour peut réunir, avant d'en parler avec Nina qui t'a accompagnée, Émilie...
Naïna,
pardon. Ouais. Je pense que en préparant l'émission, j'ai dû faire toutes les anagrammes possibles avec ce prénom. Donc j'espère que tu n'en prendras pas ombrage.
Ce matin, c'était Irina.
Mais je vais essayer d'être concentré et attentif. MAD, comment on prononce ?
Alors on dit MAD, mais ça vient, c'est l'anagramme de Mutual Assured Destruction.
Qui veut dire en français ?
Destruction mutuelle assurée. Et... Alors, toute la question, c'était est-ce qu'on met les points ou on ne met pas les points, hein, parce que, bon, voilà. MAD, c'était intéressant aussi pour la traduction fou. Et la destruction mutuelle assurée, c'est en fait l'équilibre de la terreur qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, qui était le principe, en fait, d'intimidation de son ennemi en ayant chacun la bombe nucléaire. Donc, les pays de l'OTAN se sont équipés de l'arme atomique. Mais avec le principe que si tu l'as, faut que je l'ai, quoi. Voilà. Alors c'est assez drôle en ce moment parce qu'on voit que ça résonne pas mal avec ce qui se passe entre la Corée du Nord et Mr. Trump. Mais voilà, le texte a été écrit avant et surtout sous le régime non pas de la terreur mais de l'état d'urgence.
Naïna, voilà. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, pas du tout.
C'était juste une respiration près du micro.
Bien.
Alors, prends ton élan, il y aura des questions qui vont arriver. Mad, juste pour poursuivre là-dessus, ça veut dire fou, tu l'as dit, mais les Anglais sont plutôt malins là-dessus. Fou, ce serait plutôt crazy. Mad, il y a un côté débile aussi.
Ouais, mais ça l'est. Enfin, oui. Ça m'intéresse de... Parce qu'en fait, au départ, la pièce de Guillaume Allardy ne s'appelait pas Mad. Et c'est à la suite d'un débat qu'on a eu, qu'on a avec l'auteur, décidé de trouver un titre qui serait plus parlant sur la question de cette espèce de débilité, parce que tu as raison de préciser ça, parce que c'est quand même une sacrée absurdité, cette histoire de « si t'as la bombe, faut que j'ai la bombe ». Enfin, voilà, et c'est cet angle-là qui nous intéresse d'ailleurs, et que Guillaume Allardy, l'auteur, a pris pour parler des dirigeants, voilà, les
et
seigneurs.
On retrouve un peu cette débilité-là, parce qu'en gros, si je devais faire un pitch très 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 résumé,
ah, mais tu fais très bien ça,
très
vas-y.
Abrupt, c'est l'histoire de deux dirigeants, deux rois, qui décident, pour éviter de faire une grosse guerre nucléaire, de se faire une petite guerre. Un petit peu comme la théorie des dominos en 63 entre l'URSS et les États-Unis. Donc, on y va par petit à coup et puis on finit par se vendre des armes. Donc, on alimente notre petit conflit pour éviter le gros conflit. C'est un résumé correct ?
Oui, oui. Alors, on les appelle... Ils ne sont pas tout seuls. En tout cas, c'est les seigneurs du Nord-Ouest et les seigneurs du Sud-Est. Voilà. Et ce n'est pas pour éviter la bombe nucléaire. C'est parce qu'ils ne s'entendent pas sur une question de territoire. Et donc, bah, comment on va faire ? Bah, on n'a qu'à se faire la guerre. Ah oui, mais la guerre, le problème, c'est que ça coûte cher. Donc, du coup, bah, autant se faire des affaires. Mais on n'a qu'à faire croire qu'on se fait la guerre. Comme ça, on pourra se vendre des armes. Et comme ça, on peut mettre aussi la population sous pression, en fait. Ce qui va être après le déroulé des péripéties.
Mad, c'est aussi, pour les gens âgés comme moi... qui commence un peu à chiffrer. On reviendra sur le côté intergénérationnel de votre troupe. C'est aussi le nom d'un magazine... est-ce qu'il y a sa plane ou pas ?
Moi, je ne connais pas bien, donc j'ai bien vu hein, quand j'ai fait des recherches.
Et qui jouait aussi avec le MAD.
Ouais. Mais je ne connais pas bien. Je t'avoue que je ne pourrais pas... Non,
ça
n'a pas été une inspiration.
Vous n'en avez pas parlé avec Guillaume Allardy ?
Non, parce qu'il ne connaissait pas de mémoire. Je ne crois pas que c'était une référence pour lui. Et surtout que ce n'est pas le titre qu'il avait donné originellement.
Alors on reviendra sur la folie de Mad en répétition, qui n'est pas tout à fait encore en création, mais qui est encore en répétition au Théâtre Mansart. Les créations auront lieu le 4 et le 5 octobre, donc semaine prochaine. On reviendra pour en parler avec Naïna Daboville et Émilie Faucheux. On reviendra aussi sur la pop culture qui parsème complètement le texte, mais avant... Pop, toujours. Pop encore, c'est Baxter Dury qui nous fait la surprise de revenir tout en restant sur la côte ouest des États-Unis. Voici Miami.
Successful I am. I'm like a shipping tycoon, full of promise and calm. I'm a salamander, short with lover boy, causing grief with the bleeding eyes. I'm a turgid, fucked up little goat pissing on your fucking hill. And you can't ship me out, cause you can't catch me, cause you're so fat. So fuck ya. I'm Miami. I don't think you know who I am. I'm the sausage man, the shadow licker. Tiny little ghost that features in your despondent moments. The timeless whisper, the glassy dude. I'm the science of all that's wrong, and I'm making you think that you doubt everything you love. But I'm here to stay.
Retour pour cette oreille au poste du jeudi 28 septembre en compagnie d'Émilie Faucheux et de Naïna Daboville. J'allais dire deux meufs, mais non, ça se dit pas en 2017,
on est en blonde en même temps.
On dit pas ça. Nos deux invités extraites, attends, j'ai que ce mot-là, extraites de la campagne du Hum Théâtre qui est actuellement à l'atelier, enfin à l'établi du Théâtre Mansart pour la création du spectacle à venir 4 et 5 octobre intitulé M.A.D. point, ou alors MAD, à vous de savoir comment vous voulez prononcer, version scientifique ou plutôt version pop culture. On était un peu sur le magazine MAD que ni toi ni l'auteur ne connaissaient visiblement avant d'attaquer ce projet, qui n'était pas titré ainsi avant de l'attaquer. Il y a vachement de références à la pop culture dans le texte.
Alors moi je me demande, qu'est-ce que tu entends par pop culture?
La pop culture c'est tout ce qui n'est pas au théâtre. Tout ce qui n'est pas enseigné dans les conservatoires, dans tout ce qui fait les choses simples, drôles et pas compliquées. Enfin, nous mettons en gros l'antithèse du théâtre. Non, par exemple, il y a des petites choses que j'ai relevées qui sont plutôt amusantes. Il y a le commandant Kitty Cat, il y a un personnage qui s'appelle Bigou, on a un sergent Matrix, on a des attentats sexuels un peu à la mode fémène, même si c'est des échos larges, en tout cas c'est ça. Il y a vachement de références comme ça au quotidien. On est, nous, une génération où la pop culture, de par la télévision, a une importance incroyable.
Oui, alors moi je parle pas mal de l'univers cartoon, par exemple. Ça, c'est le mot que j'emploie beaucoup quand je répète. Surtout d'un point de vue rythmique, d'un point de vue aussi de la démence, c'est-à-dire d'aller très très loin. C'est une forme de clown, mais en effet, qui est typé, t'as raison. Et par rapport à l'écriture, Guillaume, Alardi a écrit ce texte, c'est important de le spécifier, c'est lors d'un atelier qui mène en banlieue parisienne, qui est destiné à des gens qui parlent pas français, pas très bien français. C'est des ateliers qui permettent d'intégrer pas mal de sans-papiers, des gens... Enfin, je connais pas bien, donc je voudrais pas dire trop de bêtises. Mais en tout cas, ça fait qu'il écrit des choses très simples. Alors, il s'amuse, donc lui, il met ses références aussi. Et surtout, il y a des choses en résonance. Et il l'a vraiment écrit quand l'état d'urgence est sorti. Avec tous les abus que ça pouvait, dont on parlait beaucoup, surtout à l'époque. Et après les attentats. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est comment il a pu détourner la tragédie contemporaine avec cette tonalité que toi t'appelles pop, qui peut être pas mal, que moi je tire après dans la mise en scène encore plus d'un point de vue cinématographique.
C'était le deuxième temps de cette question-là. C'est vraiment des références qu'on a l'habitude de voir en BD. On voit ça dans le comics, on voit ça très bien dans le cinéma d'animation, mais j'ai du mal à voir ça au théâtre, par exemple. C'est une vraie question de savoir comment on s'y prend pour porter cette multitude, ce foisonnement de signes au théâtre.
Et puis je sais qu'il y a plusieurs compagnies, metteurs en scène qui ont essayé de faire de la bande dessinée au théâtre, et c'est dur. On se tape un peu la tête contre les murs. Alors, moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait. C'était donc de travailler avec un bruiteur, un musicien bruiteur. Et aussi, ce qu'on fait, nous, en tant qu'acteurs, c'est de changer complètement à vue les costumes. On court après les personnages. Et il n'y a surtout pas d'incarnation... je pense que ça se joue surtout sur, on va pas créer des bulles et on va pas pouvoir refaire les Monty Python parce que ils ont l'avantage d'avoir le montage, c'est-à-dire qu'on coupe et on est ailleurs et ça on peut pas le faire au théâtre, c'est sûr. Mais moi c'est vrai que c'est mon rêve en fait. Je voudrais pouvoir cutter et puis qu'on passe à complètement autre chose et surtout qu'on n'a pas de moyens. Très peu,
bien sûr. Dire.
Donc du coup, pour avoir des grosses scénos qui changent, qui tournent et tout ça, tout ce que je peux rêver de temps en temps, quand on est bien inspiré, ça marche pas. Mais du coup, on court beaucoup. Et puis le son fait beaucoup. Et là, on travaille sur la lumière avec Julien aussi par Bazin. Je peux citer toute l'équipe quand même, parce qu'au son, c'est Michael Santos, donc qui est un percussionniste, beatboxer. Donc il travaille avec des sons qu'il enregistre et qui passent dans les machines et puis qui transforme, et puis on essaye aussi de faire comme un atelier de bruitage qui est sur scène, où Naina, à un moment donné, toi tu prends des petites vaisselles et puis on fait des bruits pour donner l'impression,
pour un fond sonore, etc. Et puis pour En tant qu'acteur, sans forcément parler du bruitage ou des éclairages, on a aussi une logique gestuelle qui est souvent appuyée par le bruitage. Donc comment appuyer une situation grotesque? On fait une pause et puis on regarde le public et puis y a le ting d'une idée et ensuite ça fait vraiment cartoon, quoi. C'est
qu'on a à la fois la tradition du slapstick qu'on avait au début du 20e au théâtre, ce théâtre muet hyper physique, avec en plus un jeu sur les sons, sur les mots. Il y a ces deux
un chemin-là. Un jeu sur les mots, je dirais...
Sur le rythme de la phrase.
Oui, voilà. Ouais. En fait, on va taper dans un éventail de d'approches scéniques, comme en plus le texte est composé de courtes scénettes. On est toujours en train de tourner la page, tu vois, donc il y a un peu un côté jingle qui nous sert à tourner la page, mais je crois qu'on puise dans tout, en fait. J'ai regardé Roger Rabbit, je me dis, il y a le cartoon, il y a le cinéma, mais il y a aussi par exemple Naina joue Kitty Kat, mais je fais la voix de Kitty Kat, donc on décale la voix. Voilà, donc ça, c'est des astuces qu'on a trouvées aussi.
On fait des ralentis,
mais qu'on fait en vrai.
Ouais.
Et quand on montre la vidéo, les gens, ils pensent qu'on a ralenti la vidéo. Parce qu'on fait tellement bien les ralentis, tu vois.
Ou alors, on est tellement habitué aux ralentis en vidéo. Ouais. On ne saura jamais qui de la poule ou de l'œuf, c'est toujours l'éternel débat. Naina, le territoire de la farce, du slapstick, du théâtre comme ça, physique, c'était un territoire familier pour toi, ou c'était quelque chose que tu as dû expérimenter au fil des répètes?
J'ai pas fait énormément de théâtre, en fait. Et les seules fois où j'ai vraiment fait des pièces, c'était beaucoup d'absurdes. Sinon, on a fait une pièce qui s'appelle « Réponse à la question précédente » de Jacques Rebautier.
Ça, c'est quelque chose que vous avez travaillé ensemble?
Alors, avec Émilie, en fait, au théâtre universitaire, justement, quand
si
j'ai
on
fait
on
une année
le
de
voile,
fac.
Comme ça, la cuisine, t'étais l'élève?
Voilà, c'est ça. À la base, ouais, c'est ça. C'était ma... Émilie animait un atelier du théâtre universitaire. Et j'ai fait une année de fac à Dijon, et du coup, je me suis inscrite, en fait. Et du coup, tout ce qui est absurde, ça a toujours été un peu mon coup de cœur au théâtre. Et du coup, forcément, le clown, le grotesque, etc.
Ça, c'est un truc rigolo. Tu as expérimenté donc, le plateau du Théâtre Mansart, qui est un plateau assez confort, assez beau, propice à la création, c'est vraiment royal, pour le théâtre universitaire. Là, tu y reviens en tant que comédienne professionnelle, pour le coup, dans un travail de compagnie professionnelle. Est-ce qu'il y a des différences?
C'est marrant parce qu'hier il y a eu la soirée de présentation du théâtre universitaire et donc j'y ai assisté vu que je viens d'arriver à Dijon là. C'était marrant parce que je voyais un peu les mêmes têtes et c'est bien, tu fais des trucs pro et tout, et puis et puis j'ai vu ma tête sur une affiche collée donc à la fac, ça m'a fait trop bizarre. Enfin oui, c'est vraiment différent, mais en même temps c'est...
Et dans le boulot avec Émilie, est-ce qu'il y a des choses qui changent? J'imagine qu'Émilie, de fait, elle ne s'adresse pas à ses comédiens comme aux élèves du théâtre universitaire.
En plus, on était beaucoup plus. On était quoi, 14 ou 17 dans l'atelier. Donc, c'était énorme. Et puis, les gens viennent... Enfin, ils ne sont pas pros au théâtre. Ils ne viennent pas forcément pour faire une création de théâtre comme en professionnel. Et là, il y a toujours quand même cette rigueur de boulot, la rigueur d'Émilie, quoi. De répéter, travailler, quoi. La précision... Donc ça, c'est pareil. Mais oui, c'est pas du tout la même chose dans le sens où...
Peut-être sur la durée.
Oui, voilà, c'est
des
ça.
Des répétitions.
Et puis, la finalité, quoi. Parce que on jouait deux fois par soir. Deux soirs en
au
fin
festival,
d'année.
Oui.
Ouais, voilà, aux ateliers. Et puis là, on va jouer plusieurs fois. On va jouer à Paris, on va jouer à Dijon. C'est pas la même chose, quoi.
Et puis ce que tu disais aussi tout à l'heure, pardon, tu parlais de la vie en collectivité aussi, la vie en résidence, la confrontation avec des acteurs qui sont
eux pros, quoi.
Voilà,
depuis des années.
Ça apporte quoi, ça, Émilie, cette différence de génération?
Au départ, c'était pas prévu. Je vais t'avouer ça, c'est que Naina, elle remplaçait une comédienne qui était absente sur une première résidence au château de Montelon à Montréal, dans l'Yonne. Superbe lieu, entre parenthèses. Et en fait, il se trouve que cette comédienne est tombée enceinte. Et donc, on avait commencé le travail avec Naina, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas continuer. C'est vrai que c'est une super opportunité pour Naina de faire... Naina, elle a 20 ans, elle va commencer une école, elle était au Conservatoire d'Avignon l'année dernière, enfin, elle a fui...
J'ai essayé.
Elle a fui la convention, l'institution, tu vois, elle a des bons gènes, déjà.
Finir dans vos bras.
Et là, elle rentre, tu rentres dans une école...
Oui, Actéon, à Avignon. Donc là, pour le coup, c'est une école qui utilise des méthodes Steiner et donc du clown, du sport, voilà. Enfin, c'est vraiment ce qui me plaît, quoi.
Et puis ce qui me plaisait, moi, chez Naina, parce que je dirais que l'âge, à la rigueur, moi, je m'en fous. C'est vrai qu'il y a une question d'expérience, il y a une question de maturité, il y a une question de connaissance, de voilà. Mais c'est génial d'avoir aussi quelqu'un qui est frais, super enthousiaste.
Est-ce que ça vient questionner les vieilles habitudes de théâtreuse?
Ouais, je crois pas que j'ai des vieilles habitudes de théâtreuse parce que je me suis arrêtée quelque temps parce que. Oui, j'ai jamais eu d'habitude. Je suis toujours dans un inconfort dans mon travail, de toute façon, quel qu'il soit. Je me mets trop en danger pour parler d'habitude.
Mais par exemple, au travail du plateau, est-ce que la fraîcheur de quelqu'un comme Naina, qui vient, qui déboule au plateau, qui amène des questions, j'imagine, face à la direction, t'oblige à repenser des choses, à revisiter, à faire gaffe au rythme?
Je crois pas que ce soit Naina qui soit la plus... qui remette en question le plus le travail de direction d'acteur. Je dirais presque que c'est les acteurs intermittents du spectacle qui ont un peu plus de bouteilles et peut-être plus d'attentes précises. Là, c'est peut-être... je dirais que c'est peut-être là qu'il y a plus de questions. Le regard de Naina, c'est plutôt qu'il faut peut-être un petit peu plus multiplier le temps, parce qu'il va falloir continuer à former. Voilà. Donc ça, moi, j'ai des temps avec Naina où je suis toute seule avec elle, où on va travailler plus, pour aussi lâcher des choses. Mais sinon, moi, je trouve ça génial d'avoir... le petit track d'avant l'interview radio, par exemple. c'est Naina, c'est pas quelqu'un de 20 ans. Enfin, moi, je comprends ta question, mais en même temps, je crois que ce qui m'intéressait, c'est que, par exemple, on a travaillé sur Robotier et que Naina elle proposait quelque chose autour des arts martiaux. Et du coup, ça, c'est un rapport au corps qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que je chorégraphie beaucoup, parce que j'ai un travail de précision corporelle, physique, avec laquelle il faut aussi pouvoir répondre quand on est face à ça. Et Naina, a priori, tu apprécies un peu ça, ouais. Pas tout le temps.
si.
On reviendra sur ce travail de précision qui est à l'œuvre pour l'instant au Théâtre Mansart en vue d'une création intitulée MAD. On y reviendra juste après cette deuxième pause musicale. Voici Nick Waterhouse qui reprend du Sade, tout simplement Smooth Operator.
Diamond light, love a boy. He moves through space with a minimum waste and a maximum joy. City light, business times, when you require streetcar desire for higher high. No place for beginners or sensitive hearts. When sentiment is left up to chance, it's not really an image, but more of a start. No need to ask, he's a smooth operator, just a smooth operator. He's a smooth operator, such a smooth operator. Coast to coast, LA to Chicago, Western Mail, North and South.
south on down to Key Largo, love for sale. Cross, and still we need that chase. With a license to love and insurance to hold, he'll take all your memories and turn them to.
Retour pour cette oreille au poste consacrée au théâtre. Avec une metteur en scène et une comédienne, Émilie Faucheux est metteur en scène et Naina Daboville est comédienne. Et les deux sont réunis dans le projet MAD, M.A.D. ou MAD en création au Théâtre Mansart et en création pour deux représentations, le 4 et le 5 octobre. Corrigez-moi pour l'heure, je dirais 20h30.
Tout à fait, bien.
Wow.
T'as gagné... T'as gagné quoi ?
J'ai gagné le droit de continuer cette émission. On était donc sur la pop, on est passé par la petite cuisine entre vous, voir comment la présence de Naina vient un peu bousculer les habitudes d'une troupe professionnelle, même si finalement c'est les pros qui sont peut-être un peu plus exigeants ou qui viennent un peu gratter sur le terrain du sens. Y a une question que je me posais, Naina. Vous vous êtes rencontrés au théâtre universitaire, on l'a vu, vous avez créé des habitudes de travail, mais il y a une tierce personne, alors je ne sais pas si elle était présente aux répétitions, c'est la présence d'une dramaturge. Est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec quelqu'un qui a fait ce travail-là de dramaturgie avant ?
Ouais, complètement. Bah, de toute façon, c'est la première fois que je travaille...
Que tu fais une création.
Que je fais une création, parce que j'ai fait que des ateliers où j'ai fait du théâtre au lycée, etc. Et oui, c'était la première fois avec Charlotte, c'est ça.
Est-ce que Charlotte est venue aux répétitions ?
Alors Charlotte, elle était là surtout sur les deux premières résidences. Voilà. Après, pour plusieurs raisons, on ne peut pas continuer jusqu'au bout, mais c'était bien qu'elle soit là sur la recherche, justement pour amener des films, par exemple. Tu vois, on en a parlé pas mal de cinéma, donc pour amener des références de humoristiques aussi. On a regardé pas mal de Monty Python, on a regardé pas mal de choses comme ça, de bandes dessinées, et puis aussi sur voilà, ce que c'était que la farce, d'où ça vient la farce, d'où ça vient la satire, pourquoi on pourrait appeler ça précisément farce satirique, voilà, est-ce qu'il y a un petit peu, tu vois, nourrir l'histoire, quoi, de la dramaturgie.
C'est plutôt inattendu, ça, de vous voir sur le territoire de la farce, de voir le Hume Théâtre.
Ouais, bah c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je crois que moi j'aime bien à chaque fois ronger un nouvel os. J'avais jamais fait de monologue, j'ai fait le monologue, on a fait des spectacles sans texte, on a fait des spectacles avec des textes qui n'étaient pas des textes de théâtre. Voilà. Après, pour la petite histoire, c'est aussi que l'auteur Guillaume Allardy donc m'a envoyé ce texte-là suite à, en fait, un petit clin d'œil à Lysistrata qui est dans le texte. Donc Lysistrata, pour l'histoire, c'est que c'est une farce d'Aristophane où les femmes font la grève du sexe pour que les hommes arrêtent la guerre. Et en fait, ce texte d'Aristophane, le musée de Châtillon-sur-Seine m'avait demandé vaguement si je pouvais mettre en place une lecture de Lysistrata. Alors, il se trouve que je ne le connaissais pas. Je l'ai lu pour réfléchir à la question et j'ai trouvé que c'était un peu chargé, plein de personnages. Voilà, Aristophane, c'est des écritures quand même. Voilà, et que je me suis dit, bon, c'est pas, ça va pas être simple. Je vais l'envoyer à Guillaume Allardy, que je savais auteur, pour voir s'il peut faire une adaptation ou s'il pense qu'avec une retraduction du grec, ça pouvait peut-être fonctionner. Et puis il me dit non, mais le concept est vraiment super, en effet, le concept de cette grève du sexe pour arrêter la guerre, qui est assez con et assez drôle. Mais du coup, on a laissé tomber l'idée. Et par contre, il était en train d'écrire ce texte-là pour un atelier, donc en banlieue parisienne, et il me renvoie le texte avec la référence, et il me dit, tiens, lis ça, il y a le petit clin d'œil à Lysistrata. Et je lis ça, et j'étais dans le canapé, et je me dis, mais c'est excellent, je vais monter ça avec mes élèves du TELU. Puis après, je me dis, non, mais je vais monter ça. Moi-même. Ça serait bien de le monter en pro, et de d'ouvrir aussi... Les portes des théâtres pour blaguer aussi, quoi. Mais blaguer avec un peu de charge, quoi. Voilà, un peu de...
Ça, c'est pas forcé, c'est pas inhérent, la charge dans la blague au théâtre, j'entends. Est-ce que dans la farce et la comédie, la farce, il y a une charge politique?
Non, en fait, la farce, c'est la farce. Et c'est la satire qui a une charge politique. Donc, il peut y avoir de la grosse farce ou... pas forcément un poids, une condamnation, un engagement vers un message, quoi, en disant des gros mots.
Et là, cette grosse farce, vous l'allégez avec de la musique. Comment est venu le travail avec Michael Santos?
Alors, on ne l'allège pas. Au contraire, on l'a... C'est même plutôt pour créer les espaces. Le son va permettre de tout de suite situer un espace. Et je trouve que c'est magique pour ça. Enfin, tu vois, moi, j'adore la radio aussi, tout ce qui est création radiophonique, parce que avec du son, tu peux tout de suite évoquer énormément de choses. Donc, on a pris ce biais-là de créer les espaces par le son, principalement. Et donc, du coup, il n'allège pas avec de la musique. Il va au contraire rythmer. Imposer un espace, couper, surligner, grossir, saturer.
Voilà un petit extrait de ce qu'on entend quand on va aller voir Mad la semaine prochaine, Théâtre Mansart, 4 et 5 octobre.
Investments, new jobs.
Bring the money back.
Les Seigneurs, extraits de la bande composée par Michael Santos pour MAD, MAD en création au Théâtre Mansart. Émilie Faucheux, comment s'est passé le travail avec Michael? Est-ce que c'était une carte blanche complète à un compositeur sur un texte donné, ou est-ce que tu as participé à la composition?
Non, je participe quand même pas mal. Hein. Mais il m'aime toujours, hein. A priori, je crois. Non, parce que j'adore travailler avec Michael, parce qu'il est très à l'écoute, et en même temps, il propose beaucoup de matière, il répond aussi, je lui dis, tu vois, j'imagine ça, et il se gratte la tête, il touche tous ses boutons, il crache trois trucs dans son micro, je me dis, quand il crache, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est naze, puis après, ça repasse dans ses machines, il les transforme, et c'est quand même assez... boîte à magie, là, c'est toutes ces... Alors, il revient à chaque fois avec des tables de mix encore plus grosses, je pense bientôt, il va prendre tout le plateau. Tellement il a de machines, tellement il a de boutons.
La musique est faite en direct.
Et la musique, elle est faite en direct. Alors, comme il est tout seul et qu'on n'a pas d'ingé son, voilà, malheureusement, je crois qu'il, encore hier, il m'en parlait, qu'il aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui soit au son, en fait, en face. Mais donc, il y a des petits morceaux qu'il préenregistre quand même pour pouvoir faire d'autres choses en même temps qu'il envoie, en fait. Parce que, comme on l'entend là sur l'extrait, il superpose. En fait, hein. Donc il commence par une couche, il en rajoute une autre, voilà, donc c'est vraiment le principe du mixage, après il en enlève, voilà, c'est une sorte de DJ quoi, qui est sur le plateau. Mais moi, ça m'intéresse que la fabrique soit faite à vue, donc au maximum, on essaye d'aller vers du direct. Voilà.
Nainar, le fait de jouer en direct avec un musicien, qui n'est pas comédien, qui a priori est complètement... avec un autre langage, mais au même endroit, dans le même espace. Mmh. Est-ce que c'est perturbant ? Est-ce qu'au contraire, c'est un soutien fort ?
Moi, je trouve que c'est un atout, en fait. Parce que ça nous accompagne dans la précision, toujours. C'est, par exemple, il attend qu'on termine une phrase, un mot, et c'est son top pour appuyer sur un bouton. Et je trouve vraiment que c'est formateur, en fait. Et c'est un peu compliqué, des fois, parce qu'on a tendance à pas le prendre en compte, malheureusement. Enfin, moi, en tout cas, c'était ma faute au début. C'est, je pensais aux comédiens, on jouait ensemble. Et le problème, c'est qu'il y a Michael qui attendait une phrase, et vu qu'on cherchait encore nos mots, et ben, lui, il attendait un top signe ou un truc comme ça. Et puis, on le disait pas, et du coup, il était dans le rush, quoi.
Tu viens de dire top signe, et on arrive à la dernière partie de cette émission. Et d'habitude, quand on prononce le mot dernière partie de cette émission, on arrive à une petite séquence qui s'appelle pop signe. Et le top signe, je le fais à la régie. Andrea, c'est quand tu veux.
Mais ne l'oubliez pas, c'est quand le rideau se lève que votre vie commence. Il ne tient qu'à vous qu'elle continue, le rideau, une fois baissé. Pour cela, il suffit, après avoir cru en vos personnages, de croire un peu en vous.
Et hop, qu'est-ce que je pense ?
Mais c'est merveilleux ce que vous pensez.
Non, non, mais tu entends ce que je pense ? Écoute, tu entends ce que je pense ? Allez, 3, 4...
Pop scene, la culture pop adaptée au plus haut des arts. Et le plus haut des arts de ce soir, c'est bien évidemment le théâtre. Naina, Émilie, réponse courte pour question courte. Première question, Antigone ou Lysistrata ?
Lysistrata.
Lysistrata.
Peut-on jouer un méchant sans être méchant soi-même au théâtre ?
Bien sûr.
Oui.
Peut-on jouer un amoureux sans jamais avoir été amoureux ?
Heureusement.
Oui.
Le mot de fan le plus touchant que vous ayez pu entendre à la sortie d'un spectacle ou à la sortie d'un atelier ?
On a compris. On a tout compris.
Moi aussi, il faut que je réponde.
Ben, ça serait... C'est à ta discrétion, comme on dit chez Flunch.
Non, j'ai rien qui me vient.
Quelle serait la musique de scène idéale pour un spectacle ?
La musique de scène ?
Ouais.
Bah, celle de Michael.
Tout à fait. Ouais.
Cette circonstance, parfaite. Quelle est la meilleure place dans un théâtre ? Je suis spectateur, je veux aller voir un spectacle et je vous demande conseil.
Pour moi, moi j'aime bien être près des...
Au milieu, c'est bien, je pense.
Au milieu et je dirais 5e rang, 10e au Théâtre de la Ville à Paris.
Pourquoi ?
Moi, j'aime les acteurs.
Pour voir les têtes, les jambes ?
Pour sentir. Pour flairer.
Sentir le...
si, si ou pas, ouais.
Un décorateur rend-il vraiment la scène plus jolie ?
Il n'y a ni décorateur, ni joli.
Et quel est le meilleur repas jamais mangé en catering ?
Des compotes.
Compotes pour Naina. Doit-on forcément mentir au théâtre ?
Il n'y a pas de vérité.
Dernière question de ce pop scene, doit-on toujours embrasser et ou féliciter ses partenaires après chaque représentation ?
Oh bah non, si t'as vraiment fait chier, tu lui fais un gros fuck.
Eh bien, j'espère que vous ne ferez pas ce fameux fuck le 4 et 5 octobre prochain. Et puis, vous avez après le 12 octobre au Théâtre Gaston Bernard à Châtillon-sur-Seine. Nous, pour voir M.A.D., nous étions avec Émilie Faucheux et Naina Daboville pour en parler.
Je peux dire du 21 au 24 novembre au Théâtre de la Loge à Paris ?
Théâtre de la Loge, Paris, 21 au 24 novembre. Prenez des trains, volez des voitures et allez voir ce maudit spectacle MAD par le Hume Théâtre. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, j'aimerais juste à remercier Andrea pour l'AREA.
Merci
et puis
Andrea.
Vous dire merci les filles et puis
merci
à
Guillaume.
Vous qui écoutez, à bientôt. Allez, ciao.
Ciao.
Zutik Productions présente Aquaserge Orchestra et Mungogo le mercredi 4 octobre à 20h au Consortium. Le Tribu Festival, ce sont des coups de cœur musicaux du monde entier, y compris d'endroits pas trop éloignés de chez nous comme Toulouse. Aquaserge a été fondé sur un principe loufoque, erré parmi les vestiges d'un monde englouti, à bord d'un sous-marin cigare piloté par le capitaine Serge Gainsbourg. Le résultat de l'expérience, un rock psyché, francophone, fascinant, où Coltrane et Hendrix ne sont jamais loin. Également à l'affiche de cette soirée au Consortium, Mungogo, duo nantais qui fait dans la musique de chambre, mais une